Aujourd'hui, nous recevons l'abbé Chypri Herbelbid. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'honneur cette année puisque vous fêtez votre jubilé de diamant, 60 ans de sacerdoce, ce n'est pas rien.
Exactement, oui. Et quelques semaines.
Et vous avez été ordonné en quelle année alors?
J'ai été ordonné en 1961, le 3 juillet à Ailette. Nous étions deux et on a été ordonné par Monseigneur Larrarte, des missions étrangères qui venaient d'être expulsées de Chine.
Alors c'est l'occasion pour nous de revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes né en Basse-Navarre, à Ailette.
Je suis né à Ailette.
Il y a 80 ans.
Où nous étions à l'époque 11 prêtres, je crois.
En 1934
34, oui.
Donc vous avez 86 ans.
86 ans, exact. Calcul mental excellent.
Avant de revenir un peu sur votre parcours dans le détail, vous êtes donc prêtre depuis 60 ans. Vous êtes aussi journaliste.
Oui, journaliste aussi.
Et vous n'êtes pas prêtre diocésain, vous?
Non, parce que j'ai démarré ailleurs. Je ne suis pas passé dans le même moule que les autres.
Vous êtes prêtre des missions africaines.
Des missions africaines de Lyon, oui.
Vous êtes né à Ailette en 1934. Quels sont vos souvenirs d'enfance à Ailette?
Souvenirs d'enfance? Alors là, souvenirs d'enfance, que dire? Il y en a tellement. un qui me vient à la tête maintenant.
Déjà, combien vous étiez dans la famille?
Il y a eu 7 naissances et un décès. Donc, on est resté 6 vivants. J'ai une sœur qui est morte à 5-6 mois. Voilà. Alors, un premier souvenir en tant que, au point de vue de la foi, j'ai fait ma première communion à 6 ans, le jeudi saint, c'était le jeudi saint qu'on faisait à l'aide. On n'avait jamais été au catéchisme, mais on savait le Notre Père, je vous salue, on savait ce que c'était que Jésus, Noël, etc. Aujourd'hui, ils arrivent au caté à 8 ou 9 ans, ils ne savent pas faire le signe de croix. Pour vous dire combien les temps ont changé. Voilà un petit détail.
Vous avez vécu la vie à la ferme?
Ah oui.
Le nom de la maison, c'est?
Biscaya. On travaillait, depuis tout petit, on travaillait dans la mesure où on en était capable. Mon père ne pouvait pas sentir quelqu'un qui ne faisait rien. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au petit séminaire, un jour je rentre en vacances, mon père était à cercler le maïs avec le domestique, et je vais l'embrasser. Alors je l'ai embrassé, puis il a dit au domestique d'aller faire je ne sais pas quoi. Et moi, je suis parti devant le cheval pour prendre le travail du domestique. Voilà. Mais on ne la sauvait pas. C'est tout à fait naturel.
Vous avez vécu bien, vous, à Ailette?
Ah oui. J'ai connu les Allemands. Les Allemands sont venus quand j'étais gamin. Je me rappelle que j'étais parti un jour au bourg et puis j'ai vu des sidecars arrivaient des Allemands. J'étais parti en courant le plus vite possible. J'avais peur qu'ils me tuent. Il y avait eu 21 tanks sur la place de l'Aide, pour vous dire qu'ils étaient venus en force. Et il y avait un jeune homme qui avait été élevé chez moi et qui était prisonnier en Allemagne. Et je me rappelle que la prière du soir, on faisait toujours une prière pour lui. Et à l'époque, le facteur marchait à pied. Alors, quand il avait des enfants à l'école, il donnait les lettres aux enfants et c'est nous qui les rapportions à la maison. Un jour, je reçois une lettre, une enveloppe. Monsieur Herbelbid Eshkabatou, maison Biscaya Hacheman, Helet Inemberis. Je traduis. Monsieur Herbelbid, je me suis échappé. Maison Biscaya, on m'a attrapé. Helet, je vais recommencer. Voilà. Il avait réussi à s'échapper. Il avait fait 3 essais avec les punitions conséquentes. Il avait réussi à s'échapper. Et il n'avait donc pas un sou en poche, il restait un an chez moi domestique, puis après, bon, il a fait sa vie, et il a terminé en Soule, il avait acheté une ferme, pour vous dire que c'est un type capable, parce qu'à l'époque, le capital pour acheter une ferme, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autres souvenirs peut-être? Est-ce qu'il y a des mauvais souvenirs de cette période?
Non, les Allemands sont restés 2 fois à l'aide, ils ont été très, très corrects. Ils nous donnaient de bonbons aux enfants, ils se rappellent peut-être des enfants qu'ils avaient laissés à la maison aussi. Hein. Non, on n'a pas de mots. Moi, je n'ai pas de mots. Ah oui, un quand même. Ça, c'était plus tôt, mais en 1944, j'étais à Bodone déjà, au petit séminaire, et un jour, ils avaient bombardé Biarritz. Et on avait été voir Biarritz le lendemain du bombardement, avec les maisons écroulées, les trous dans la rue, etc. Quoi. Ça, c'était un mauvais souvenir.
Une enfance heureuse à Ailette, à la ferme familiale. Et ensuite, quand est-ce que vous êtes parti d'Ailette pour commencer vos études?
Je suis parti, j'avais 10 ans. Et je suis parti à Bodone, aux missions africaines. C'est pour ça que j'ai fait toute la filière. J'ai fait Bodone, après le second cycle à Nantes, la philosophie en Belgique et la théologie à Lyon.
Pourquoi les missions africaines plutôt que rentrer au séminaire?
Parce qu'un beau jour, il y a un père des missions africaines qui est passé à Hellet. Il a parlé aux enfants du catéchisme, il nous avait montré des diapos. Enfin, pas des diapos, ça n'existait pas, mais des projections. Et puis, ça m'avait plu, j'y avais donné mon nom. Et puis, j'ai suivi sur la filière après. Mais j'avais pensé avant me faire prêtre. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça non plus. Je me rappelle, je me vois encore où j'étais. Et un type qui m'a demandé, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Je lui ai répondu, je vais me faire prêtre, évêque, pape et Dieu. Et je ne blaguais pas, c'est comme ça que je pour vous dire que je n'étais pas grand et que l'idée n'est pas d'aujourd'hui.
Vous aviez de l'ambition.
J'avais de l'ambition, oui.
Vos souvenirs pendant ces années d'études, est-ce qu'il y avait d'autres personnes, d'autres jeunes d'ici qui sont rentrés aussi aux missions africaines?
Oui, il y en a à Bordeaux. On était pratiquement, oui, tous du Pays Basque des Landes. Et parmi mes copains, il y en a qui sont connus ici. Il y a eu le père Arindegui, par exemple, qui était chargé de la pastorale des missionnaires dans le diocèse. Il y a eu le père Mouesca qui vient de mourir. Voilà, par exemple, deux qui me viennent. Le père Landareche de Mendionde, le père Culuchet et le père Goyenech d'Irissari, le père Cassanchoa. Voilà.
Jules Largou, vous l'avez connu aussi?
Hein?
Jules Largou, vous l'avez
connu? Jules Largou, oui, il était plus jeune que moi, lui. Jules Largou, oui.
Donc, vous faites vos études et vous êtes ordonné donc en 61.
Oui.
Donc, vous avez évoqué votre ordination à l'église des Lettres.
Oui.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Ensuite, c'est comme ça que ça se passait. À la fin de l'année, on était tous au réfectoire et un beau jour, le supérieur qui était là aussi se levait et il donnait les nominations, là, c'est là qu'on apprenait, et puis j'apprends que je suis nommé pour faire la licence en théologie à la faculté de Lyon, et qu'après je serai professeur d'anglais à Bodone. Bon, licence en théologie, c'est pas compliqué, mais professeur d'anglais, j'avoue que je ne savais ce que j'avais appris. Alors, j'étais parti pendant 2 mois en Angleterre pour être dans le bain un peu, et je m'étais trouvé... il fallait payer le machin, on n'a pas de sous. Hein. Alors, je m'étais engagé avec le Service civique international, une association qui embauchait des gens pour travailler chez des nécessiteux. Alors, je tombe là-bas en Angleterre, on était logé chez des protestants. Mais j'avais déjà connu à l'époque les protestants, il fallait pas leur parler. Alors, avant déjà, avec mon copain Arguinegui, pour goûter le monde un peu, pendant les vacances, on avait donné le nom à cette association pour travailler dans une colo, c'était dans les petites vacances, c'était pour des aménagements qu'il fallait faire dedans. On arrive là-bas, on était une quinzaine, je pense, de jeunes, et puis que c'était une colonie protestante. Vous vous rendez compte, première fois que j'ai vu des protestants en chair et en os.
C'est ce côté peut-être protestant qui reste encore chez vous aujourd'hui?
Je l'étais déjà avant. Alors... quand on est rentré au grand séminaire, on s'est gardé de dire à qui que ce soit où on était. Parce que vous vous rendez compte, peut-être, je ne sais pas, hein, on avait peur de se faire engueuler, d'avoir été chez les protestants, et donc avoir parlé avec eux comme ça.
Et vous avez été prof d'anglais alors?
J'étais prof d'anglais.
Et vous parlez l'anglais couramment alors?
Je parlais, ça fait un bout de temps que je ne parle plus. Alors j'avais 3 ans ici à Bodone et après 3 ans en Côte d'Ivoire à Benjerville.
Alors parlons donc après votre... enseignement finalement, puisque vous avez été enseignant au départ.
Oui, hein, oui, oui.
Et ensuite, vous avez été donc en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, mais là-bas, j'étais...
En quelle année?
D'abord, 4 ans après, en 65. Alors, d'abord, j'étais professeur au petit séminaire. Et au petit séminaire, il y avait les vacances. Je ne pouvais pas aller en famille. Alors, j'allais en paroisse aider des prêtres dans des missions. Et c'est comme ça que j'ai connu l'âme de l'Afrique, si vous voulez. J'allais dans les villages... je mangeais avec eux, je couchais dans la maison, etc. J'ai connu un peu de plus près, parce que le petit séminaire, c'était artificiel. Vous vous rendez compte, à la maison, ils couchaient sur une natte par terre, et arrivés au séminaire, ils avaient un lit, et ils mangeaient 3 repas par jour, alors qu'ils n'en avaient qu'un chez eux. Enfin, c'était tout. Ils étaient au un mode de vie européen, si vous voulez. Alors que chez eux, ils avaient le mode de vie africain.
C'était l'époque de la décolonisation.
Oui, 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 à l'époque, c'était l'indépendance année 5, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, et c'est quand j'étais là-bas qu'un jour, Sékou Touré a chassé tous les Blancs, dont les missionnaires, de Guinée. Et l'année avant que je n'arrive, était élève à Benjerville, les séminaristes guinéens étaient à Benjerville. Parmi les élèves, il y avait le cardinal Sarr, que j'ai retrouvé après, ici, à Belloc.
Quel accueil vous avez, vous étiez blanc, donc quel accueil en Côte d'Ivoire?
Accueillir très bien. Les gens sont très accueillants. Ça, c'est une question de civilisation, je pense. Ici, quand j'étais gamin, c'est l'ancienne société. L'accueil, c'était tout à fait naturel. Ça fait partie. Le sens de l'accueil se perd avec la richesse. Plus on a, moins on veut partager. J'ai constaté ça au cours de ma vie.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire?
J'ai fait 3 ans là d'abord. Et puis, au bout de 3 ans, pour les grandes vacances, je suis parti à la paroisse de Tiassalé pour remplacer un prêtre qui était en congé. Et au retour, il n'est pas revenu là. J'ai été nommé là. C'est une paroisse qui faisait 3300 km², 90 km de haut, 90 km de large, un triangle. Il y avait. Bon, quand je suis parti, il y avait 45 à peu près églises et chapelles. Et on était 2 pour faire le tour. Donc ils n'avaient pas la messe tous les dimanches. Mais ce n'est pas la même méthode qu'ici. Le dimanche, l'église n'était pas fermée. On ne leur demandait pas d'aller à la messe là où la messe était célébrée. Dans chaque village, tout le monde se réunissait dans la chapelle avec le catéchiste qui faisait une cérémonie qu'on n'appelait pas adap. Ils ne savaient pas, mais ils lisaient les lectures de la journée. Il y avait un petit sermon qu'on leur préparait et ils chantaient, etc. Et c'est de là, donc, pour vous dire, l'effet des réunions de chrétiens dans leur village, aujourd'hui, il y a 14 paroisses, il y a plus de 30 prêtres originaires de là, alors que tout mon temps, ils étaient 2 seulement. Donc c'est payant. Parmi les nouveaux prêtres, il y a 2 anciens séminaristes que j'ai connus et que j'avais envoyés au séminaire. Et après, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres comme ça.
Quels sont vos souvenirs, vos impressions de la situation économique là-bas, à cette époque?
À l'époque, ça marchait très bien. La Côte d'Ivoire était l'exemple de la réussite économique. Oufouet Banni était. Bon, il avait ses défauts, incontestables, mais il a réussi à s'entourer de gens capables qui ont développé la culture du café, du cacao, et qui ont développé un peu l'industrie à Abidjan. Il y avait par exemple une usine de montage de voitures Renault. Voilà. Et quand j'étais là-bas, a été construite l'autoroute depuis Abidjan jusqu'à chez moi. C'était en construction au-delà aussi, mais ce n'était pas fait encore. Mais jusqu'à chez moi, il y avait l'autoroute quand je suis parti.
Les messes là-bas, comment ça se passait?
Les messes, ça dépend quelle messe. Quand j'étais dans un village, on célébrait dans la langue du village. Au centre, on faisait du bilingue, sauf pour les grandes fêtes, on faisait du trilingue. Il y avait beaucoup d'immigrés burkinabés, j'avais une dizaine de chapelles avec des burkinabés, et ceux qui étaient autour du centre venaient pour Noël et les grandes fêtes, tout le monde était ensemble. Alors, il y avait le sermon. Moi, je faisais en français, il y avait un traducteur en baoulé, un traducteur en burkina. Et les chants, il y en avait en français, en baoulé et en burkina. Tout le monde avait sa part. Je me rappelle que la première fois, le président de la Cour suprême, c'est-à-dire le troisième personnage de l'État, était de Tiasselet. À la fin de la messe, il était venu me féliciter pour cette initiative. Alors qu'ici, aïe, 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 mettez au centre, à la messe de 11h, un peu trop de basque, vous allez voir.
Abbé Chypri Arbelbide, donc vous êtes resté combien de temps en Côte d'Ivoire?
J'ai fait 12 ans là-bas.
Et après?
Après, je suis venu, j'ai fait un an à Paris pour me ressourcer, parce qu'entre-temps, il y avait eu mai 68. Et vous n'avez pas connu, mais ça, il y avait eu un changement terrible. Alors, pour me réadapter un peu ici, j'ai fait des études à Paris. J'ai fait un travail sur les proverbes baoulés, et puis je suis venu à Bayonne, où je suis rentré, où j'ai été nommé à U.R.6. À Saint-Labé-de-Port, mais en fait, j'étais à Garcise.
Donc là, comment ça se passe au niveau de l'Église? Vous êtes prêtre toujours des missions africaines?
Oui, j'avais demandé à l'évêque, et puis il m'avait accepté à laisser pour 3 ans. Puis pour 3 ans, j'avais pas eu de confirmation, et puis après, les affaires s'étaient gâtées avec lui.
Alors, URCIS, 1977.
J'avais 6 ans là-bas.
Voilà. Alors, comment ça se passe à URCIS?
À URCIS, c'était la même équipe que j'avais, si vous voulez, le presbytère du URCIS, mais je faisais un peu plus URCIS, mais on allait à Ispour, à Saro et compagnie. On était une équipe qui travaillait ensemble. Je faisais du caté, par exemple, au
C'était
collège
qui
de
le curé
Mallorca.
alors là à l'époque?
Hein?
Le curé, c'était vous?
Non, 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 non. Moi, j'étais un nouvel arrivé. Le curé, c'était Irigoyen. Et comme co-vicaire, il y avait Elisa Garay, il y avait Hyderte Garay, qui était, si vous voulez, vieux, vieux entre guillemets, il n'était pas aussi vieux que moi maintenant. Et puis venait Hegi, qui était professeur au grand séminaire à Dax, et les week-ends et les jours de fête, il venait à Saint-Labé-de-Port. Oui, on était bien équipés.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'évêque de l'époque, donc Monseigneur Vincent?
Monseigneur Vincent, bon, Monseigneur Vincent, il était allergique à ce qui est basque, il faut dire tel que c'est, bien qu'il a, au point de vue de la liturgie, il a favorisé, mais arrêtez là. Hein. Pour vous donner une chose bien concrète, dans ces années-là, il y a eu en tout 36 assassinats de basques, soit de l'autre côté, soit d'ici, par le GAL, par le commando anti-ETA, par le bataillon basco-espagnol et compagnie. Il n'a pas ouvert la bouche, alors qu'il y en a qui étaient ici. Il a entendu le coup de pétard. Hein. Il y en a eu 5 ou 6 à la rue Panneco, par exemple. Il y en a eu au bout de la rue Victor Hugo. Bon, pour vous dire que c'était pas des trucs qui étaient loin. Et puis un jour, il y a eu 2 CRS qui se sont fait descendre à Baïgorry, aussi condamnables que les autres. Mais pour cela, il a sorti un communiqué. Et je l'ai avec lui, Monseigneur, je suis d'accord avec vous pour le condamner, mais les gens parlent, ils disent comment ça se fait que pour les Basques, vous n'avez jamais ouvert la bouche, et puis là, les premiers non-Basques qui sont assassinés, vous sortez un communiqué. Je ne peux pas admettre ça. Et là, ça a pu bien marcher entre nous après.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas été muté en Sibérie?
Non, 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 il m'a rien dit à moi. Un jour, il a écrit à M. Périer que j'avais demandé mon incarnation, mais que non, il n'était plus d'accord. Je lui ai dit, bon, c'est bien, je m'en vais alors. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait là?
Alors, on venait de naître la radio Gouli-Ratia. J'ai été embauché là, je suis resté là jusqu'à l'âge de la retraite, où j'ai été nommé à hier. Le Camino voulait me nommer, voulait faire une paroisse.
Le vicaire général Joseph
Oui.
Camino.
Avec les 4 villages, Ayer, Istiritz, Saint-Martin-d'Albrou et Saint-Destabin, je lui avais dit, écoute, tu vois bien où on en est, c'est pas la peine de faire une nouvelle paroisse, t'as qu'à rattacher ça, comme ça va être plus tard, à Asparin. Et je vivais en fait à Ayer, mais je travaillais davantage à Ayer, c'est vrai, à Ayer, Istiritz, mais je faisais aussi un peu à Asparin.
Arrêtons-nous avant de parler de Ayer Istiritz un peu sur Gouli-Ratia. Vous êtes un des fondateurs de Gouli-Ratia au moment des radios libres en 81.
Je suis le géniteur. Un jour, j'ai écrit une lettre à, un jour, j'ai écrit une lettre à, je sais pas, une quinzaine d'associations pour leur dire, bon, est-ce que c'était le début des radios libres, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une radio libre en basque? On a fait une réunion, on avait décidé de faire, ça c'était je crois en juillet ou en août, et on avait commencé à émettre à Noël 81. Voilà.
Rappelez-nous un peu à cette époque quel était le paysage, on va dire, audiovisuel
Le
du
paysage
Pays basque.
audiovisuel. Jusque-là, il y avait radio. Il y avait avant, pendant les vacances, Radio Côte Basque, que Paris avait installé ici pour les touristes. Ce n'était pas pour nous, hein, c'était pour les touristes. Et comme il y avait un vendeur de poste de radio et compagnie d'Asquin, qui avait un magasin à Saint-Jean-de-Luz, qui les avait aidés à s'installer ici quand ils étaient venus, il avait réussi à obtenir pour nous d'avoir il y avait une heure en basque, je pense, par semaine, plus la messe en basque le dimanche. Voilà, les premières émissions en basque d'ici. Et puis, après, comme Radio Libre, la première, ça a été Adour Navarre. Et puis, le deuxième, ça doit être nous. Adour Navarre nous avait mal pris comme concurrent, parce qu'il donnait une certaine place aux Basques, plus que Radio France Pays Basque. Et nous, il ne nous avait pas mis d'un bon oeil.
Alors, vous étiez journaliste, vous faisiez quoi? Tous les jours, vous donniez des informations à Gouli Radio?
Ah, on était à l'époque, il y avait Lucien Cesaretta, comment elle s'appelait? Une fille de Bustens que je connaissais avant déjà, la mémoire flanche. Il y avait elle, on était trois au début. Et on faisait tout à trois. Alors, il y avait des émissions le matin avec les infos, à midi aussi, et le soir aussi. Alors, entre-temps, au début, il n'y avait rien. Après, on a mis de la musique enregistrée. Et puis après, on a rempli petit à petit ça.
Alors, quels sont les souvenirs de cette époque? Quelles sont, par exemple, les émissions ou les interviews qui vous ont marqué de cette époque, de ces...
Le souvenir, c'est que les gens avaient peur de micro. C'était difficile de trouver quelqu'un qui veuille parler devant un micro. Il y avait d'abord ceux qui n'étaient pas sûrs de leur basque, bien qu'ils savaient très bien, mais vous comprenez, devant un micro. Puis petit à petit, ça c'est un pas qui a été très important. Surmonter cette peur du micro. Voilà. J'ai même réussi à faire parler une fois en basque M. Koumet. C'est la seule fois qu'elle a dû parler en basque devant un micro, pour vous dire. Voilà. Et puis, on faisait partie n'importe qui. Moi, j'avais une émission chaque semaine où je faisais de la musique avec des enfants. Alors ça, c'était excellent pour trouver des auditeurs après. Il y a des gosses qui étaient à l'école de musique, qui apprenaient à jouer l'accordéon, du cotetitia, du chisto et compagnie. Je les enregistrais 10 minutes, 5 minutes d'interview. Pensez, après toute la famille et tous les copains, ils étaient à écouter la radio après. Voilà, un truc, voilà. Et puis j'avais fait une autre émission qui a duré longtemps, c'est Sérita Siloti. Je faisais une interview plus longue. À l'émission, ça a duré une heure, mais je mettais de la musique entre, avec n'importe qui. C'est comme ça que j'ai enregistré des gens qui ont fait la guerre de 14. Je dois être le seul à avoir des documents de gens de 14 qui racontent de vive voix ce qu'ils ont vécu. J'en ai fait avec des Américains, dont certains nés au 19e siècle, avec des gens de la guerre de 39-45 qui me racontent comment ils se sont échappés depuis la Prusse orientale jusqu'au Pays Basque, des trucs comme ça, vous voyez.
Racontez-nous l'histoire de au moment de la guerre de la Première Guerre mondiale, le jeune qui voit pour la première fois une voiture.
Ah, ça c'était avant. C'est un monsieur qui a fait la guerre de 14, qui était originaire de, qui était né à Ailette, et dont la fille est institutrice. L'arrière-petite-fille, les Sabalo, vous voyez, il s'appelait Vignon, mais enfin, alors, je l'interviewe. On débordait un peu. Après avoir raconté l'histoire de la guerre, on pouvait raconter des histoires après et avant. Alors, lui m'avait raconté ceci. C'était à la fin du 19e siècle, ou tout à fait au début du 20e, il était en train de labourer avec son père, lui au Brabant. Non, et papa au Brabant et lui devant les vaches. Tout d'un coup, il s'arrête, puis je dis en français, « Papa, qu'est-ce que tu as? Regarde, la voiture là-bas, la charrette là-bas, elle avance sans vache. » C'était la première voiture qu'il a vue et la première qui a dû venir à Ailette. Combien de fois j'ai pensé à ça après, vous vous rendez compte. Entre la création de l'homme et ce moment-là, il y a eu moins de changements quant à ce moment-là et la mort de cet homme qui a vu l'homme à l'est de la Lune. Vous voyez un peu l'évolution qu'il y a eu au cours de la vie d'un homme. Et on continue, et de plus en plus vite.
Quand vous étiez à Gouli-Ratia, à la radio, c'était les bandes. C'était les grandes bandes.
Non, il y avait, non.
Il y avait
ça,
les cassettes.
Lucien faisait ça. Nous, on avait des cassettes. On avait l'appareil, c'était un Philips, le moins cher qu'on avait trouvé, les bandes, c'était le moins cher, on n'avait pas de sous. Vous comprenez? Ah, c'était le Philips qu'avait n'importe qui, Le moins cher, c'est avec ça qu'on travaillait.
Nous sommes avec l'abbé Chypriard Belbide qui fête cette année son jubilé de diamant, 60 ans de sacerdoce. Nous marquons une pause et nous le retrouvons dans quelques instants. Retrouvons l'abbé Chypriard Belbide. Alors, vous nous racontez à l'occasion de vos 60 ans de sacerdoce un peu votre parcours et vos souvenirs. Vous avez 86 ans aujourd'hui, vous êtes en pleine forme.
Ah oui. Aussi bien que vous que n'importe qui. Je suis près de ma mort, mais je ne sens vraiment pas que je le sens pas physiquement.
Alors, en 1981, vous avez été un des pionniers des radios basques ici à Iparralde, au Pays Basque Nord. Et ensuite, donc, vous êtes nommé en 1998 à Ayer Isturitz. Quels oui. sont vos souvenirs de cette époque?
Ça s'est très bien passé. J'ai commencé à faire le tour. J'avais fait ça à Uercis aussi. J'avais fait le tour de toutes les maisons, toutes les familles, pour connaître les gens et... Les gens avaient beaucoup apprécié ça. Je m'appelle un qui m'avait dit, on n'avait jamais vu un curé chez nous. Ce n'étaient pas des cartes fermes, hein, pour vous dire. Hein. Mais après, ça ne fait rien, voilà. Et j'ai commencé par ça, puis après, bon, j'ai vu le travail comme les autres, quoi. Le caté, les messes, les enterrements, les mariages.
En 98, c'est aussi le moment où le diocèse a lancé ce qu'on appelle les nouvelles paroisses, c'est-à-dire le regroupement
et... Oui. Ça s'est fait, c'est l'année après, je pense.
Je crois pas. Comment vous avez vécu, vous, ce regroupement
Bon, moi, je trouvais ça normal. Je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, on était deux pour 45 villages. Bon, ici, on commençait les prêtres à diminuer, qu'on fasse autrement très bien. Là où ça n'a plus marché, moi, dès le début, j'avais pensé qu'on ferait comme là-bas. Qu'on voyait que les prêtres mouraient et que les jeunes ne venaient pas, donc il arrivait un moment où on ne pourrait plus assurer les messes. Et moi, je proposais à l'époque qu'on on fasse des adapts, que dans les villages, que le moment où ils viendraient, où on ne pourrait plus assurer les messes,
on demande... Adapte à l'assemblée dominicale en l'absence de prêtres.
Les chrétiens se rassemblent entre eux et prient entre eux, y compris la communion. D'ailleurs, ça, ce n'est pas obligatoire, mais enfin, moi, j'étais pour. Voilà. Le concile recommande ça, quand il n'y a pas de prêtre. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique, si, sur l'Eucharistie, une encyclique qu'on a mise sur le pinacle, recommande ça. Le synode de Bayonne, vous trouvez un article où il est dit que le conseil paroissial décide des heures de l'organisation des messes et des adapts. Vous avez connu, vous, une réunion où on a discuté de ça? Ça, c'est normalement les conseils paroissiaux qui doivent faire. Moi, j'ai proposé, je me rappelle, la première fois que j'ai proposé, bon, c'est marqué au programme, à 12h25, ça met sur la table, à 12h30, terminé. Bon, on n'a pas parlé, quoi. Alors, je me suis dit, bon, on va continuer la prochaine fois. La prochaine fois, ce n'était plus au programme. Alors, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, je ne viens pas ici pour discuter sur le sexe des anges. Alors, continuez, moi, je m'en vais. Ils étaient restés bouche bée, il paraît. Bon, et depuis, j'ai essayé, il y a une dizaine d'années, à une réunion d'Ustéris, j'avais proposé ça au doyen de l'époque, j'envoyais un mail, puis bon, il n'avait pas été question, il dit bon, j'ai dû envoyer trop tard, ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, ce n'était pas au programme, alors depuis je ne vais plus à ces réunions-là. Alors, on prend des décisions comme ça, on supprime les messes, on tue les communautés chrétiennes que nous avons, et on n'en parle jamais entre nous. C'est quand même pas normal. Hein? Parce que le résultat du système actuel, il n'y a pas de messe, il n'y a rien, c'est que les églises se vident. C'est nous qui vidons les églises. Ce n'est pas les gens qui s'en vont. Quand la messe est là, les gens étaient là. Je vais vous donner un exemple pour Ayer et Istéris. Quand les deux villages, il y avait la messe, soit le samedi, soit le dimanche, entre les deux villages, on faisait un peu plus de 100 personnes. Le jour où on a mis une messe pour les deux villages, on est descendu à 60. Vous vous rendez compte, la perte 40%. Et pour les jours de fête, Noël, Pâques, la Toussaint, on est descendu, je crois, de 400 à 300. Voilà le résultat.
Donc vous souhaiteriez que finalement, il y a une proposition dans chaque village pour que les chrétiens se rassemblent.
Voilà.
Que ce soit la messe ou autre chose.
Ils font, il n'y a pas de messe, ils font une adap. Ils chantent, ils écoutent les lectures. Je l'ai eu fait deux fois parce qu'une fois j'avais été malade, entre autres. J'avais enregistré le sermon et ils avaient passé à la cassette tout le sermon. C'est très facile aujourd'hui. En Afrique, on ne pouvait pas faire ça. Mais ici, le prêtre enregistre le sermon et il envoie au village où il y a la DAP. Et ils ont un truc très bien avec ça.
Donc maintenant, vous êtes toujours au service de cette paroisse d'Ayer Istéris, aujourd'hui la paroisse Bienheureux François Dardan.
Oui.
Donc depuis 1998, en fait, vous n'avez jamais arrêté.
Oui, oui, ça fait 20 ans que je suis là-bas. J'ai passé l'âge pivot, mais je n'ai pas encore pris la retraite entière. J'attends un autre âge, celui que le Seigneur décidera, pour arrêter.
Alors, Chypre Arbelbid, bon, vous êtes prêtre, on l'a dit, vous êtes journaliste aussi.
Attendez, je termine. L'affaire de prêtre. Il y en a qui... j'ai dit ça à la cause de mes 60 ans. Il y en a qui m'ont dit, vous avez du mérite à votre âge de célébrer des messes ou des enterrements comme ça. J'ai dit non, j'ai pas de mérite. Je fais ça pour mon plaisir. Car je trouve mon plaisir à ça. C'est la réalité. Et ceux qui me connaissent ne me contrediront pas. On peut être heureux en étant prêtre. Ce que les gens ne pensent pas. Il y en a, je me rappelle avoir entendu une femme me dire, ah, je ne voudrais pas que mon fils se fasse prêtre. Hein, parce qu'elle pensait qu'être prêtre, il serait malheureux.
Donc vous êtes un prêtre heureux.
Je suis un prêtre heureux, oui. Ça ne veut pas dire que tout marche sur des roulettes. Nulle part. Ni marié, ni prêtre, ni à la retraite, ni en plein boulot. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal. Mais dans l'ensemble, je suis heureux. Moi.
Donc, Chypre Arbelbid, vous êtes prêtre depuis 60 ans, vous êtes journaliste également, et vous êtes militant.
Oui.
Vous le revendiquez.
Oui, 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 bien sûr.
Militant pour la langue basque,
oui.
La culture basque, et aussi pour l'indépendance du Pays Basque.
Et le tiers-monde.
Alors, à ne pas oublier. Parlez-nous un peu de cet engagement, de ce militantisme. Il vient d'où, d'après vous ?
Il vient d'où ? Bon, un prêtre, déjà, est un militant. Il donne sa vie pour certaines choses, pour les gens qui sont là, religieusement. Et puis, en même temps, il y a des tas de choses que... Autrefois, les prêtres faisaient l'école, à l'école primaire, au collège. Il y a eu les prêtres ouvriers, enfin bon, il y a des tas de choses. Moi, je vis avec des gens, je fais un avec eux, je fais un avec les sorciers. Un exemple, depuis tout le temps, j'étais militant pour la langue basque. J'arrive en Afrique, j'ai appris la langue de là-bas. Mon premier livre que j'ai écrit, c'est un recueil de proverbes de langue baoulé. Donc il faut que je sache un tas soit pas le baoulé pour ça quand même. Et comme il y avait beaucoup d'immigrés burkinabés, j'ai appris suffisamment de burkinabé pour célébrer en burkinabé et comprendre la tradition de mes sermons en burkinabé pour que quand ils déviaient, je rectifie un peu.
Alors vous surveillez quand même que la traduction était bien faite.
Ah oui. Oui, ça m'est arrivé une fois comme ça. Le type, il traduit autre chose, mais bon. Je redis la même chose d'une autre façon. Il ne traduit pas encore. Une troisième fois, il ne traduit pas encore. J'ai compris qu'il ne voulait pas dire, il n'était pas d'accord avec moi, et il ne voulait pas le dire de sa bouche, ça. Voilà, pour dire. C'est important de savoir quand même, de comprendre un peu. Voilà.
Alors, militant. Alors,
donc là-bas, j'ai été en quelque sorte militant de leur langue. Et on nous demandait aux missionnaires de parler la langue du pays où on était. J'arrive ici. C'est tout à fait normal de parler aussi la langue du pays où je suis, même si c'est le mien, surtout si c'est le mien. Voilà, donc, la liturgie en langue basque, et puis, quand j'étais à Uassise, il y avait eu déjà... Erdosiatiat qui avait commencé à donner des cours de basque, j'avais pris ça à ma charge, je donnais des cours du soir de basque, par exemple. Et puis, il y avait à l'époque Eskondon Castellia, le MRJC. Bon, il y avait, c'était comment il s'appelait, Aïssaguer qui était aumônier, et puis il y avait des jeunes sur Galassie, je m'en occupais, ils se réunissaient au presbytère du Assise. Et je peux dire que ELB est né là, parce que c'est militant.
ELB, je crois, la branche.
Oui, le syndicat basque des paysans. Ce sont ces gens du MRJC de l'époque qui ont créé ELB. Il y avait longtemps, vous savez, on ne savait pas trop si c'était la réunion du MRJC ou la réunion de l'ELB. C'était la même personne, vous savez, alors.
Donc, un engagement pour la langue basque, aussi pour le territoire.
Oui, le territoire aussi. On parle basque à Bilbao et ici. Vous voyez, est-ce que les Français ne s'intéressent pas aux francophones du Canada et de Belgique? La francophonie, c'est quelque chose. Alors nous, on n'aurait pas droit à la bascophonie. Il faudrait quand même que les francophones réfléchissent un peu à ce qu'ils nous demandent. Ils ne voudraient pas que nous, on fasse ce qu'eux font pour eux-mêmes.
Vous êtes nationaliste basque, on peut dire ça, à Bertrand?
Oui, je suis un des premiers d'ici.
Et par contre, vous n'avez jamais soutenu le TA?
Au début, quand je suis arrivé d'Afrique, j'étais resté à Paris, j'avais connu certains là-bas. ETA, vous savez, à l'époque, c'était pas grand-chose. Hein. Ça a commencé à l'époque, oui. Et il y en a un qui donnait des émissions en espagnol, en ondes courtes, France étranger, quoi. Et j'écoutais ces choses-là. Quand j'étais à Uassise, il y avait un quart d'heure, deux fois par semaine, je sais pas, je prenais ça, j'écoutais. Et je suivais avec ça ce qui se passait de l'autre côté. Et je me rappelle que quand j'entendais que l'ETA avait descendu une colonel, je me disais, au moins ils ne sont pas aussi cons que les types du FLN qui descendaient leurs copains à eux au lieu de descendre les soldats français. Parce qu'ils foutaient des bombes dans un autobus et compagnie, ça n'avait aucun sens. Et eux-mêmes, ici, ils ont descendu un maréchal, ils ont descendu des généraux, des colonels. Après ça...
C'est pas choquant d'entendre un prêtre dire ça.
Ah ben, dites... Est-ce qu'au grand séminaire de Bayonne, il n'y a pas un monument pour les prêtres basques et béarnais morts à la guerre de 14? Et en 39-45, il n'y en a pas qui ont reçu des médailles. Quand je suis parti en Algérie, je veux dire ça, le 3 mai 1956, on prend le train à Bayonne, on était une trentaine de Basques, le train s'arrête à Toulouse, on devait changer de train pour aller à Perpignan. Qu'est-ce qu'on voit sur le quai? On voit l'abbé Laxag, avec, habillé en militaire, avec les galons de commandant.
Ancien vicaire général.
Non, il n'était pas encore.
Voilà,
mais après, après ça, donc, après avoir été chef de bataillon à la guerre d'Algérie, il a été vicaire général. Et à moi, on me dit, je suis pas, j'ai pas fini avec le terme. Au début, contre Franco, j'étais entièrement d'accord. Et puis après aussi. Et puis j'ai décroché d'eux lorsqu'ils ont commencé à descendre des journalistes, à foutre une bombe dans un supermarché à Barcelone. Bon, là, c'était plus. C'était de la dégénérescence. Et puis en plus, ça ne portait plus de tort que de mal.
Vous pensez que le Pays Basque peut être indépendant un jour?
Qu'est-ce que c'est indépendant? Il faut qu'on ait une certaine autonomie. Voilà. Jusqu'où, actuellement, est-ce que la France est indépendante étant dans l'Europe? Voilà. On allait là un peu. Alors, un Pays Basque uni, voilà, ça, uni. Alors, quel sera le statut politique? J'en sais rien. Je ne le verrai pas, ça.
Vous nous avez raconté tout à l'heure que votre père n'aimait pas vous voir rester sans rien faire.
Oui.
Vous n'êtes pas resté sans rien faire, parce que j'ai sous les yeux la liste des ouvrages que vous avez publiés,
oui, oui.
Que ce soit des livres, des livrets, vous n'arrêtez jamais.
Non, non, non. Qu'est-ce que je m'en irai. Il faut bien que je m'occupe. Alors, en fin de semaine, je vais en paroisse, j'ai les extras, comme dans les bistrots, avec les enterrements, ou avec les mariages et les baptêmes. Le résultat, il faut que je m'occupe. Je n'ai pas de télé, pour vous dire, voyez. Je ne m'ennuie pas, en plus. Je ne m'ennuie pas. J'ai un téléphone que j'ai payé 25 euros, et qui marche très bien. J'ai téléphoné on m'a téléphoné de Jakarta, de Saïgon, de Ouagadougou et d'Abidjan, entre autres. J'entendais comme si on me téléphonait d'Istruitz, avec mon petit téléphone à 25. Pourquoi les gens ont-ils des téléphones à 300, 500, 1000, 3000 euros, j'ai vu un téléphone? Alors, il ne faut pas déconner. Il y a d'autres, dans le sud-ouest, que, comment il s'appelle, l'astronaute français, c'est Baudry. Peu importe, un nom comme ça, on a interviewé.
Pesquet.
Non, ce n'est pas Pesquet. Il a fait Soyouz, il a été dans les airs avec les Russes et avec les Américains, ce n'est pas n'importe qui. Et lui aussi, il leur a dit, vous m'avez téléphoné, et c'est dans mon appareil à 20 euros que je vous ai entendu très bien. Vous voyez, lui aussi, pourtant c'est pas n'importe qui, il a un truc de 20 euros.
En décembre 2019, vous avez reçu un prix pour votre dernier livre qui s'appelle oui. Oylara Kukuluka, qui va être publié prochainement, ces jours-ci.
Il est imprimé là, il est en train de...
Donc il va arriver au collage, il va arriver dans la librairie, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Alors, vous avez eu quel prix, là, à Bilbao?
Unanumo. Tous les ans, la ville de Bilbao donne un prix. C'est quand même pas banal. J'ai eu 6 000 euros. Hein. Bon, l'an dernier, c'est moi qui l'ai eu.
Donc, pour un ouvrage écrit entièrement en basque?
J'espère qu'on en parlera plus longuement. Entièrement en langue basque, bien sûr, et qui traite des problèmes de l'Église et du Pays basque.
Donc, il faut lire le livre. On ne va pas en parler aujourd'hui.
Non. On va en parler une autre fois plus longuement.
Est-ce que vous pouvez quand même nous dire un peu la teneur de l'ouvrage?
La teneur de l'ouvrage. J'ai de l'historique. Vous vous rappelez qu'il y avait eu une lettre de 60 prêtres à l'évêque, leur disant leur désaccord sur un tel nombre de points. C'était tombé dans les mains du Sud-Ouest.
À l'évêque actuel.
Hein?
À l'évêque actuel.
À l'évêque actuel, oui. Et ça a fait un gros scandale. Bon. Et... C'est à partir de ça, j'ai lu cette lettre, tout ce qu'il y a eu autour, et c'est là que je pars, j'ai dit, le problème chez nous, ce n'est pas l'évêque, pas plus qu'ailleurs, le problème est ailleurs, parce que l'Église a commencé à dégringoler bien avant l'arrivée d'Aillé. J'ai fait la cour des ordinations les 60 dernières années, ces 60 années de baisse. Il y a 60 ans, il y avait une douzaine de prêtres par an, au Pays Basque, vous m'entendez? Maintenant, jusqu'à l'arrivée d'ailleurs, il y en avait deux ou trois en 10 ans.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes reviennent à l'église?
Eh bien, il faut d'abord voir où est le problème et ne pas chercher des échappatoires en disant que c'est ailleurs, que c'est la messe en latin, que c'est la soutane. Bon, moi, je ne suis pas pour la messe en latin, ni pour la soutane. Si ça leur fait plaisir, ils se promènent en soutane et ils célèbrent la messe en latin. C'est pas ça qui... Je vous dis, c'est avant ça que l'église a baissé. Alors, d'où ça vient? Ah ben, c'est nous remettre en question. Je pense que au lieu d'avoir la foi dans l'évangile, nous croyons à la société de consommation. On attend le bonheur d'une augmentation de pouvoir d'achat, d'avoir au lieu d'un téléphone à 25 euros, d'en avoir à 500. Voilà. Mais avec ça, on est en train de tuer la terre et on ne trouve pas le bonheur. On n'a pas parlé beaucoup du tiers-monde, mais j'ai été une fois aux Canaries, parce que c'est là-bas qu'arrivaient les Africains qui voulaient venir en Europe, au lieu d'aller à Lampedusa maintenant. Et j'avais trouvé, justement, des Africains qui étaient tout heureux de trouver quelqu'un qui pouvait parler français alors que lui ne parlait pas espagnol là-bas. Bon, alors on a parlé, on s'est lié d'amitié. Et je me rappelle que l'un d'entre eux m'a raconté qu'ils étaient montés dans leur grande pirogue à côté de Dakar, et puis en cours de route, l'eau finit. Et on ne voyait pas la terre à l'horizon. Et puis le soleil tapait. Et plus ça allait, plus ils avaient soif. Il m'a dit, je suis pêcheur. Je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais j'ai bu l'eau de mer. Alors vous voyez, l'eau salée, ce que c'est l'effet que ça a pour la soif. Alors je pense que la société de consommation, c'est la même chose, c'est comme l'eau salée. Plus on en a, plus on en veut. Et jamais on est satisfait. Donc c'est une impasse. C'est ce et les chrétiens et les prêtres, on n'a pas encore compris ça.
Et pourtant, c'est ce que dit le pape François.
Exactement ce qu'il dit. Non, il dit arrêtez, et même il dit il faut reculer dans le Laudato
Si. La décroissance.
Il parle de décroissance, oui. Mais il n'a pas la... C'est pas à cause de la messe du latin, lui. Pourquoi on n'écoute pas davantage, lui?
Vous avez lu sa dernière encyclique, Fratelli Tutti?
J'ai pas fini encore. Il y a une trentaine de pages de journal. Hein. Il faut s'y accrocher. J'ai fait la moitié.
J'ai pris Albert Bide. Quel est votre passage préféré de l'Évangile?
Bon. Le préféré, bon, je vais vous dire. Jésus nous a dit que celui qui quitte son père, sa mère, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a sur cette terre pour le suivre, il aura 100 fois plus dès cette vie et le bonheur éternel en plus. Alors, le bonheur, on chante en bas, Béthier et Cossolion, le bonheur éternel. J'ai l'impression que quand tu dis éternel, ça commence seulement après la mort. Et dans l'évangile, tu vois, ça commence dès cette terre. Et tu vois que dans l'évangile, Jésus n'arrête pas de supprimer des souffrances. Il n'a jamais dit à un aveugle ou à un sourd ou à un boiteux, console-toi, tu souffres ici, tu seras d'autant plus heureux dans le ciel. Non, il guérit l'homme pour qu'il commence à être heureux dès maintenant. Et l'évangile nous montre le chemin du bonheur dès cette vie, avec 100 fois plus de bonheur. Si tu suis le chemin de l'évangile, que si tu en prends un autre, parce que les autres chemins ne sont pas bons. C'est comme ça. On a la peur, on est en train de tuer la terre actuellement, parce que notre Dieu aujourd'hui, c'est la consommation. Il faut toujours avoir plus, toujours plus moderne, etc. On est en train de tuer la terre. Voilà, c'est. Tu as la fièvre chinoise actuellement qui nous embête.
Ça, c'est Trump qui l'appelle la fièvre chinoise.
Moi aussi, je l'appelle la fièvre chinoise, parce que ça vient de là-bas. Je m'en fous de Trump. Alors, la fièvre chinoise nous embête et on n'arrive pas à comprendre qu'il faut prendre des moyens pour arrêter ça. Dès que tu prends un moyen, on ne va pas gagner autant d'argent qu'on voulait. Tu vois, encore le pognon. Voilà.
Donc, cette promesse du Christ... qui rend au centuple ceux qui donnent leur vie pour lui, vous la vivez.
Je suis heureux. Et puis, cerise sur le gâteau, et quand je vais mourir, j'aurai le bonheur éternel.
Nous arrivons au terme de cet entretien. J'ai pris Herbel Bide. on aurait pu dire beaucoup d'autres choses sur votre parcours à l'occasion donc de votre jubilé de diamant, de vos 60 ans de sacerdoce. Je rappelle que vous avez été ordonné prêtre en 1961 à Ailettes, que vous êtes né en 1934 à Ailettes également. Chypriarque Belbide, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes générations ?
Jeunes générations, je leur dis, ouvrez les yeux et regardez l'avenir. La terre est en train de crever. Vous le savez, ça. Vous le voyez. Bon, alors, votre avenir dépend de vous, ou bien vous continuez dans votre lancée, vous cherchez votre bonheur à consommer de plus en plus, ou alors vous cherchez votre bonheur ailleurs, et l'Évangile nous dit que c'est dans l'amour les uns des autres, pas l'amour de soi-même, mais l'amour des uns des autres, ouvrir les yeux aux autres et chercher son bonheur là. Et vous avez la preuve ici. Prenez par exemple Bissy. Vous avez des tas de... Ils sont plusieurs centaines là, des gens qui vivent en fait...
Le mouvement Bissy.
Le mouvement Bissy, oui. Qui vivent ça, qui donnent leur vie pour les autres et qui sont heureux.
Pour terminer, chez Frère Belbide, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous?
Ouf, ça, j'ai aucune idée. Non, non. Aucune idée, je ne peux pas vous dire.
Vous avez peur de la mort?
Non, 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 non. Non, je dis, je sais que je l'ai là à la porte, mais j'y pense rarement. Et quand j'y passe, ça ne me pose pas de problème. J'ai été gâté par le bon Dieu, vous vous rendez compte? Arrivé à mon âge, avec la santé que j'ai, s'il m'a gâté.
Et quelle est la période de votre vie que vous avez le plus aimé avec le recul aujourd'hui?
Je pense que c'est en Afrique. Je pense.
Merci beaucoup, Chypriarque Belbide, pour votre témoignage et on attend donc la publication de votre livre Oïlara Kukuluka qui devrait donc bientôt sortir dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Milesh Kersouli.